les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Des sorcières, les génies mauvais de la forêt, des elfes noirs, mais aussi des oiseaux rédempteurs, la conjonction de l'ombre et de la lumière. Les contes varmandais de Selma Lagerlöf, ses romans étranges, brûlants d'amour, et aussi bien sûr son magnifique, merveilleux voyage de Nils Holgersson. L'écrivaine suédoise Selma Lagerlöf, première femme à recevoir le prix Nobel de littérature, Selma Lagerlöf, au menu d'une vie, une œuvre, diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 février 1986.
À Ecuby, les invités étaient partis et les lumières éteintes. Les cavaliers, seuls dans l'aile du manoir, faisaient cercle autour du bol de punch. Et Gusta porta un toast en votre honneur, femme des temps jadis. Parler de vous, disait-il, c'est parler du ciel. Vous étiez toute beauté, toute clarté, toujours jeune, toujours belle et tendre, comme les yeux d'une mère qui regarde son enfant. Souple comme de jeunes écureuils, vous vous pendiez au cou des hommes. Jamais on n'entendit votre voix trembler de colère, jamais vos sourcils ne se fronçaient, votre douce main ne devenait jamais dure, ni rugueuse. Sainte du foyer, vos images ornaient les autels de la maison. On vous apportait l'offrande de l'encens et des prières. L'amour, par vous, opérait ses miracles, et la poésie saignait votre front d'un nimbe de lumière. Enthousiasmés par ces paroles, et encore bouillants des excitations de la fête, les cavaliers résolurent de clore la nuit d'une façon digne d'eux. On attela vite les traîneaux pour courir, malgré la nuit froide, offrir un dernier hommage à toutes celles qu'on acclame jamais assez, à toutes celles dont les joues roses et les yeux limpides avaient paré de leur beauté les vastes salles d'Ecuby.
Une vie, une œuvre, Selma Lagerlöf, par Claude Metra et Michel Abgral.
Le cortège des cavaliers n'alla cependant pas loin. Arrivés à Björn, ils découvrirent la belle Marianne sur sa couche de neige, devant la porte de sa maison. Ils frémirent d'horreur à la voir ainsi, comme frémiraient les fidèles à voir un saint vénéré dépouillé de ses ornements à la porte de son église. Gusta menaça de son poing fermé la sombre maison. « Ô enfant de la haine !» cria-t-il. « Vous êtes pire que la grêle dévastatrice, pire que la tempête. Vous ravagez les jardins de Dieu. » Berenkreutz alluma sa lanterne de corne et éclaira le visage livide et bleuissant de la jeune fille. En voyant ses mains ensanglantées et les larmes gelées au bord de ses cils, les cavaliers pleurèrent, car la beauté de Marianne avait doucement réjoui leur vieux cœur. Mais Gusta se jeta à genoux à côté de la forme rigide sur la neige. « La voici, mon épousée. Elle me donna il y a peu d'heures son baiser de fiançailles. » Et son père, sa bénédiction, elle m'attend pour que je partage sa couche froide. Il la souleva dans ses bras vigoureux. « À Ecuby, retournons à Ecuby !» cria-t-il. « Maintenant elle est à moi, bien à moi. Je l'ai ramassée dans la neige. On ne me la ravira pas. » Gusta la frictionnait avec de la neige, la réchauffait de ses baisers, et ses larmes coulaient, tièdes, sur elle. Une vague de joie la submergea. Elle entendait les battements de son cœur. N'allait-elle pas retrouver bientôt la maîtrise de ses membres? Elle éprouva une âpre joie d'être chassée de chez elle. Elle pouvait se donner à Gusta sans hésitation. Qu'elle avait été sotte de chercher à se vaincre pendant tant d'années. Oh, la douceur de céder à l'amour! Et ses deux bras se levèrent lentement, doucement, et se nouèrent au cou de Gusta. Il en sentit à peine la pression légère. Mais Marianne crut avoir exprimé, dans une étreinte passionnée, violente, son amour, si longtemps opprimé.
La vie, elle est peut-être à l'image du ciel. Elle a sa face apparente et sa face cachée. Comme le soleil, la lune, ou les autres astres qui jour après jour, saison après saison, labourent le firmament, l'existence humaine, notre existence, se déploie entre son ombre et sa lumière. Et cette dramaturgie de l'ombre et de la lumière, Selma Lagerlöf n'a cessé de la mettre en scène. Et c'est à dessein que j'emploie cette image théâtrale. Tenter de cerner le rôle qu'assume chacun des personnages du drame, c'est là la tâche du romancier qui cherche, avec tant de douloureuse patience, de saisir un peu du reflet de l'essence de la vie. Mais cette conjonction de l'ombre et de la lumière, elle s'accomplit différemment dans les êtres vivants. Tel d'entre nous est obscur, mystérieux, insaisissable dans sa figure visible et son habit de clarté demeure à jamais caché. Tel autre est lumineux, rayonnant. Mais à côté de lui chemine sa part d'ombre qui prend parole de temps à autre dans le secret des nuits ou dans les moments imprévus où une étrange vérité jusque-là inconnue trouble la clarté du quotidien. Cette expérience de l'ombre et de la lumière, Selma Lagerlöf semble en avoir presque dès l'enfance vécu toute l'intensité. Lorsqu'elle vient au monde en 1858, dans le vieux domaine de Mérbacka, elle semble à l'image de cette province romantique du Värmland suédois, province à qui l'on prête la douceur de la France méridionale. Vieille famille d'exploitants agricoles, de fonctionnaires et de pasteurs, dont les demeures ont la douceur et la chaleur des archaïques foyers de nos campagnes. Le lieu d'enfance de Selma, c'est une petite maison basse, ombragée de grands arbres. Elle avait été jadis un presbytère et en gardait une empreinte ineffaçable. C'est en ce berceau de paix que l'ombre, celle du dehors, se manifeste quand la petite a 3 ans. Une coxalgie congénitale va faire de l'enfant un être fragile, voué à la vie sédentaire. Elle demeurera boiteuse. C'est-à-dire qu'elle sera une de ces filles que l'on invite guère à danser dans les premiers bals de l'adolescence. Et c'est sous ce signe du corps meurtri qu'il lui appartiendra de vivre. En un sens, son œuvre, ce sera un peu le déchiffrement de cette mystérieuse parole que la nature a adressée à sa chair. Il y avait une fois un roi norvégien, du nom d'Olaf. Il était chrétien et il avait décidé d'épouser la reine suédoise Sigrid, qui était païenne, mais riche, belle et fière. Le printemps venu, la reine se mit en route, comme il était convenu, pour rejoindre Olaf dans son royaume. Et au fur et à mesure qu'elle s'acheminait vers la Norvège, les anciennes divinités païennes sortaient des grottes où elles s'étaient cachées. Quand la reine naviguait entre les écueils, les ondines soufflaient dans leurs coquilles et faisaient monter vers le ciel de hautes colonnes d'écume. Et lorsqu'il y avait vent contraire, d'horribles trolls émergeaient des profondeurs, tandis que sur le rivage, les vikings cruels que le roi avait chassés lui souhaitaient longue fortune. Puis, au terme du voyage, vient la rencontre entre Sigrid et Olaf.
Lorsqu'elle s'avança vers lui, elle lui parut la plus belle femme qu'il eût jamais rencontrée. Ils montèrent ensemble vers la royale demeure et requirent entre eux concorde et amitié. Il fit asseoir Sigrid à la place d'honneur et lui-même il s'assit à ses pieds. Et Sigrid lui raconta comment elle avait mis le feu à une maison et brûlé deux petits rois qui avaient poussé l'insolence jusqu'à la demander en mariage. Le roi songea avec plaisir que c'était un juste traitement pour tous les petits rois qui oseraient demander la main d'une femme comme Sigrid la superbe. Lorsque les vêpres sonnèrent, le roi se leva et se dirigea selon son habitude vers l'église de la Vierge Marie. Mais à ce moment-là, Sigrid appela son barde et celui-ci chanta l'histoire de Brynhild qui fit tuer Sigurd. Le roi Olaf oublia l'église et les vêpres. Il demeura assis dans la salle à contempler les yeux puissants de Sigrid la superbe et l'arc noir de ses épais sourcils. Il comprit que Sigrid, c'était Brynhild, une femme capable de le tuer s'il la trahissait, mais capable aussi de monter sur le bûcher et de se laisser brûler avec lui. Chaque matin, le roi Olaf avait accoutumé d'aller à la messe. Mais le lendemain du jour où Sigrid la Superbe avait abordé à Kungahalla, il ne pensa pas en avoir le temps. Dès qu'il se fut lavé, il se proposa de descendre au port, où elle logeait sur son vaisseau, et de lui demander si, avant le soir même, elle voulait boire avec lui la coupe des noces. L'évêque avait fait toute la matinée sonner les cloches et quand le roi sortit de la demeure royale et traversa la place, les portes de l'église s'ouvrirent à deux battants et les chants arrivèrent jusqu'à lui. Mais le roi poursuivit son chemin comme s'il n'eût rien remarqué, alors le carillon cessa, le chant se tut, les lumières s'éteignirent. Cela fut si soudain que le roi s'arrêta et regarda l'église. Elle lui sembla bien plus humble et pauvre qu'il ne l'avait jamais vue. Pendant que le roi la contemplait, une femme mince et souple apparut au seuil. Elle était vêtue d'une jupe rouge et d'un manteau bleu, et elle portait sur le bras un petit enfant aux boucles blondes. Sa mise était pauvre, et pourtant le roi se dit qu'il n'avait peut-être jamais rencontré une femme plus noble de naissance. Elle avait une taille fort belle et un visage très doux. Le roi la vit avec émotion presser son enfant contre elle, comme si elle n'avait au monde que lui de cher et de précieux. « Quelle est donc cette femme ?» se demandait le roi. « Il me semble que je la connais, que je l'ai vue quelque part. » Sans doute, c'est une femme de haute naissance tombée dans la misère. Comme la femme s'attardait au seuil de l'église et manifestement ne se décidait pas à la quitter, le roi s'avança vers elle et l'interrogea. « Pourquoi es-tu si triste ?»« Je suis chassée de ma maison, » répondit-elle en montrant l'intérieur de la sombre petite église. « Qui t'a chassé ?» Elle le regarda avec une indicible mélancolie. « Ne le sais-tu pas ?» Alors le roi se détourna. Il n'avait pas le temps, se dit-il, de deviner des énigmes. Et Sigrid, debout, haute et fière sur son navire, embrassait du regard Kungahalla et se réjouissait dans son cœur de cette ville puissante et riche. Mais en l'apercevant, le roi songea à la douce jeune femme qui, pauvre et en détresse, était sortie de l'église. Vraiment, se dit-il, je crois qu'elle était plus belle que Sigrid la superbe. Et lorsqu'au même moment Sigrid lui sourit, il se rappela les larmes qui avaient brillé dans les yeux de l'autre. La figure de l'étrangère lui demeurait si présente à l'esprit qu'il la comparait trait par trait à celle de la reine. Et dans cette comparaison, toute la beauté de Sigrid s'évanouissait. Sigrid descendit du navire et s'approcha du roi. Elle tenait à la main une épée et un manteau bordé de fourrure qu'elle était heureuse de lui offrir. Mais le roi jeta un coup d'œil vers la ville. Là-bas, il vit s'avancer l'autre femme qui marchait, le corps penché et l'enfant dans ses bras. « Que regardes-tu donc avec tant d'intérêt, roi Olaf ?» répéta Sigrid. Le roi se tourna enfin vers la reine, mais alors il la vit vieille, vile, entourée de toute la méchanceté et de tous les péchés du monde, et il s'effraya à la pensée qu'il eût pu tomber dans ses filets. Il avait ôté son gant pour lui tendre la main. Subitement, il retira sa main et de son gant lui cingla le visage. « Qu'ai-je à faire avec toi, chienne de païenne ? » s'écria-t-il. Sigrid la Superbe fit un pas en arrière. Mais elle se reprit et répondit vivement « Ce coup-là pourrait bien causer ta perte, roi Olaf. » Elle était d'une pâleur sinistre lorsqu'elle lui tourna le dos et remonta à bord de son navire.
L'opposition soulignée ici, entre paganisme et christianisme, n'est pas aux yeux de Selma Lagerlöf l'opposition de deux perspectives religieuses. Elle se réfère plutôt à cette notion d'amour et de pitié qui l'obsédera sans cesse et la ramènera inlassablement à ce christianisme des origines auquel l'histoire devait infliger tant de cicatrices. Elle sait, il en témoignera dans main de ses récits, qu'au nom du Christ devait se commettre autant de crimes et se révéler autant de souffrances qu'au nom jadis des divinités païennes. Elle sait aussi que le principe christique, dans la Méditerranée, dans l'Inde ancienne, comme en d'autres lieux du monde, est apparu bien avant la naissance historique de Jésus. Et ce combat de la lumière et de l'ombre, c'est dans l'intime même de l'esprit humain qu'il s'accomplit.
La nuit suivante, le roi Olaf eut un étrange rêve. Ce qui s'étendait devant ses yeux, c'était non pas la terre, mais le fond de la mer, un sol vert et gris sur lequel l'eau avait plusieurs brasses de hauteur. Des poissons y poursuivaient leur proie, des vaisseaux glissaient à la surface comme de sombres nuages, et le disque mat du soleil y luisait comme une lune pâle. Et voici que la femme qu'il avait vue à la porte de l'église s'avança avec la même démarche penchée, les mêmes vêtements usés, le même visage de chagrin et de souci, mais partout où elle s'avançait, les masses d'eau, comme poussées par un immense respect, s'érigeaient en colonnes, s'arrondissaient en voûtes, faisaient devant ses pas un temple splendide. Soudain, le roi s'aperçut qu'au-dessus de la jeune femme, les voûtes d'eau commençaient à changer de couleur. Elles se teignirent d'abord de rose pâle, puis leur rose s'assombrit, et toute la mer fut d'un rouge de sang. La jeune femme marchait maintenant sur un sol jonché d'arcs, de flèches, d'épées et de javelots brisés et qui fut bientôt entièrement couvert. Le roi la vit en frissonnant, s'écarter pour ne pas heurter du pied un cadavre étendu dans le varech et les algues vertes. Le cadavre, revêtu d'une cotte de maille, tenait une épée à la main et sa tête saignait d'une plaie béante. Il sembla au roi que la femme fermait les yeux et n'en continuait pas moins sa route sans la moindre hésitation. Elle allait parmi les lourdes ancres et les cordages enroulés comme des serpents et des flancs éventrés de vaisseaux et des proues dont les dragons dorés dardaient sur elle leurs yeux rouges. « Je voudrais savoir quels sont les hommes qui ont livré cette bataille et qui ont fait tant de destruction, » pensa le dormeur. Les morts se multipliaient. Ils pendaient par-dessus le bord des vaisseaux. Ils disparaissaient à moitié dans les herbes marines. Mais le roi n'avait pas le temps de les regarder, car ses yeux suivaient la jeune femme qui ne s'arrêtait pas. Elle s'arrêta cependant, devant le cadavre d'un homme au juste corps rouge, qui portait sur sa tête un casque brillant, un bouclier autour du bras et dans sa main une épée nue. Elle se pencha et murmura à son oreille « Roi Olaf, roi Olaf !» Et le dormeur vit que cet homme au fond de la mer était lui-même. Il se reconnut parfaitement. « Roi Olaf, murmurait la femme, je suis celle que tu rencontras devant l'église de Kungala. T'en souvient-il ? » Comme le mort ne bougeait pas, elle s'agenouilla près de lui et continua. « Sigrid la Superbe a envoyé sa flotte contre toi et s'est vengée. Le regrettes-tu, roi Olaf ?» Et elle reprit encore. « Tu souffres maintenant l'amertume de la mort parce que tu m'as choisi et que tu m'as préféré à Sigrid la Superbe. Le regrettes-tu ? Le regrettes-tu ? » Le mort ouvrit enfin les yeux, et la femme l'aida à se lever. Il s'appuya sur son épaule et tous deux s'en allèrent lentement. Le roi Olaf les vit marcher nuit et jour et dans la mer et sur la terre, et il lui parut enfin qu'ils étaient parvenus plus loin que les nuages, plus haut que les étoiles. Ils entrèrent dans un jardin où la terre brillait comme de la lumière blanche et les fleurs comme des gouttes de rosée. Et le roi remarqua que la femme, en entrant dans ce jardin, redressa la tête et prit une allure plus légère. Bientôt ses vêtements commencèrent à resplendir. D'eux-mêmes, ils s'ourlaient d'or et se nuançaient de couleurs merveilleuses, tandis qu'une auréole illuminait son visage. Le mort leva la tête et demanda « Qui es-tu ? » « Ne le sais-tu pas, roi Olaf ? » répondit-elle. Et une splendeur infinie l'enveloppa.
Je ne sais si ce rêve du roi Olaf, je ne sais s'il ressemble au rêve de la petite boiteuse endormie au domaine de Mirbaka. Cette joie profonde, elle l'a connue sans doute par le songe ou par la rêverie. Et l'écriture, très précocement, va être pour elle cette route rocailleuse où elle tentera de donner visage à cette joie, où elle tentera aussi de soulever le voile d'obscurité qui empêche tant de vivants d'y participer. Condamnée par la boiterie, dans l'enfance et dans l'adolescence, à ne guère quitter la maison, elle se livre à d'immenses lectures. Mais elle est aussi la compagne attentionnée de tous ceux, vieux ou moins vieux, qui racontent au long des soirées la vie du village, ses désordres, ses passions, et aussi la vie de la terre, qui est pleine de légendes. Mais, au fur et à mesure que passent les années, la quiétude du foyer se défait. Le père, fatigué, se soigne à l'autre vie. Le domaine bien-aimé n'est plus guère prospère. Il est, à échéance plus ou moins lointaine, promis à la dispersion. Et au cœur de cette solitude inquiète, voici une saison lumineuse. Le premier voyage de Selma à Stockholm, chez son oncle. Elle a alors un peu plus de 14 ans. Elle demeurera dans la grande ville de janvier à mai 1873. Un peu plus tagrSelma Lagerlöf reviendra à Stockholm pour y poursuivre ses études d'institutrice. Les études achevées, elle ira enseigner à Landskrona près de Malmö. Les années passent, et elle assistera à la ruine définitive du domaine de Mirbaka. C'est une grande déchirure qui est comme la négation de son enfance et de son rêve. Mais cette déchirure va être sans doute la source même de son premier chef-d'œuvre, la saga de Gösta Berling. C'est un roman étrange, brûlant d'amour, même si parfois cette brûlure s'apparente à celle de la glace. C'est un chant épique à la gloire du rêve humain, du désir d'amour. Une puissante sensualité, comme dans tout art véritable, y trouve son visage par une série de symboles parfois obscurs. Symboles dont seules les âmes ardentes, enveloppes invisibles de corps non moins ardents, peuvent seules découvrir l'intensité. Et dans ces rencontres des êtres humains, ce qui fascine Selma Lagerlöf, c'est ce qu'on pourrait nommer les lignes de rupture, les moments où le cœur, en proie à de grands bouleversements, voit tout à coup, avec un regard complètement neuf, les voies imprévisibles de la destinée. Gösta Berling, c'est un pasteur qui a été révoqué parce qu'il s'adonnait trop assidûment à l'eau de vie. On l'a chassé de son presbytère misérable et dans la honte ou le mépris, on l'a renvoyé à la route. Une route qui, bien sûr, ne mène nulle part.
Il n'alla pas loin. Sur le bord même de la route, la neige s'amoncelait. Il s'y laissa choir, puis il ferma les yeux et attendit la mort. On ne sait combien de temps il y resta, mais il vivait encore lorsque la fille du pasteur de brebis, une lanterne à la main, passa en courant sur la route et trouva le mendiant à demi enfoui dans la neige. Pendant des heures, elle l'avait attendu en haut de la côte. Et elle s'était enfin décidée à aller à sa recherche. Elle le reconnut immédiatement et se mit à le secouer de toutes ses forces pour le réveiller. Il fallait que ce mendiant dît ce qu'il avait fait de son sac de farine. Il fallait qu'il revînt à la vie, au moins assez pour lui répondre. Son père la tuerait si elle avait perdu son traîneau. Saisie de désespoir devant l'inertie du malheureux, elle lui mordit les doigts, le griffa, le bourra de coups de poing en hurlant comme une furie. À ce moment, des grelots tintèrent.
« Qui diable crie ainsi ?»
demanda une voix rude. « Je veux savoir ce que cet homme a fait de mon sac de farine et de mon traîneau. » sanglota l'enfant, en tambourinant de ses petits poings fermés sur la poitrine du mendiant.
« Et c'est un homme gelé que tu gifles ainsi ? Ôte-toi de là, chat sauvage !»
Celle qui parlait ainsi était une grande et forte femme. Elle descendit de sa voiture et s'approcha du groupe. Puis, d'une poigne solide, elle attrapa la gamine par la nuque et la rejeta sur la route. Passant ensuite un bras sous le corps du mendiant, elle le souleva et le déposa dans son traîneau.
« Viens avec nous à l'auberge, sauvagesse, » dit-elle à l'enfant, « et nous verrons ce que c'est que cette histoire. »
Une heure plus tard, le mendiant était assis sur une chaise près de la porte, dans la meilleure chambre de l'auberge, et devant lui se tenait la grande femme autoritaire qui l'avait sauvée. Elle ressemblait bien au portrait qu'on lui avait mille fois fait d'elle. Aussi, avant qu'elle eût ouvert la bouche, Gösta Berling avait compris qu'il se trouvait devant la célèbre commandante d'Egby. C'était la femme la plus puissante du Vermland, maîtresse de sept forges, habituée à commander et à se faire obéir. Et lui, qu'était-il ? Un condamné à mort, un malheureux, à qui toutes les routes étaient fermées.
Ainsi, toutes les routes sont fermées, sauf celles des grandes forêts. Ces forêts qui, par leurs vastes caresses végétales, apparaissent comme les maîtresses de la vie et de la mort. Les forêts, ce sont les ours et les neiges, la douceur des aiguilles de sapin, et le silence des grands arbres noirs sur le gris du ciel hivernal. Et Gustav Berlin, il se trouve dans un des temps lourds de l'existence, où tout ce qui, jusque-là, avait vaille que vaille réussi à faire tenir debout un homme, tout cela s'écroule. La commandante, elle représente l'autre extrême de l'expérience humaine. Elle est la femme du refus, celle qui oppose au silence ou au désordre de la nature son propre silence quasi minéral. Et son âme, elle en a fait une épée, comme pour témoigner du pouvoir presque infini de la volonté sur la contradiction des choses.
Un tressaillement parcourut le malheureux. Il joignit les mains et leva sur elle des yeux désespérés. Que ferait-elle de lui? Le forcerait-elle à vivre? Il s'effrayait d'avoir à lutter contre elle. Il avait été si près du but, si près d'atteindre la paix et le silence des forêts éternelles. Elle engagea le combat en lui disant que la fille du pasteur était rentrée en possession de son sac de farine et de son traîneau, et qu'elle, la commandante, avait un refuge à lui offrir, comme à plusieurs autres malheureux sans foyer, dans l'aile des cavaliers, à Egby. Il y mènerait une vie exempte de soucis, une vie de plaisir. Mais il lui répondit qu'il devait mourir. Alors, la commandante asséna un coup de poing violent sur la table et s'écria « sans ménagement ». « Ah, monsieur désire la mort. La mort, rien que ça. Je n'en serais pas surprise si, en vérité, on pouvait dire que tu vis. Mais regarde-moi ce corps décharné, ces membres mous, ses yeux ternes. Et ça vous parle de mourir. Qu'est-ce qu'il reste à tuer là-dedans? Tu te figures qu'il faut être étendu, immobile et rigide, cloué sous le couvercle d'un cercueil pour être mort? Tu ne crois donc pas que c'est un mort que j'ai là sous mes yeux, Gustav Berling? Je vois sous ta peau la tête de mort et les orbites vides. Ne sens-tu pas ta bouche pleine de poussière? N'entends-tu pas un bruit d'os qui s'entrechoque quand tu bouges? Gustav Berling s'est noyé dans l'eau de vie. Il est bien mort. Ce qui s'agite encore en toi, ce ne sont que de pauvres ossements. Et tu leur marchandes cette illusion de vie. C'est comme si tu voulais refuser aux morts de danser entre les tertres des tombes à la lumière des étoiles. Tes patrons t'ont révoqué que tu veux mourir? Il serait plus méritoire d'utiliser les dons qui t'ont été départis en te rendant utile sous cette terre du bon Dieu. Mais pourquoi n'es-tu pas venu me trouver tout de suite? J'aurais arrangé l'affaire. Mais aujourd'hui, il te faut la gloire d'être couché sur les copeaux de bois et admiré par toute la commune qui défilera en admirant le beau cadavre. Le mendiant écoutait, calme, presque souriant, cette algarade. Non, elle n'avait aucun pouvoir de détourner son âme de l'appel des grandes forêts. La vieille commandante se balançait doucement, d'arrière en avant, devant le feu. Elle ne regardait plus Gustav en parlant. Voyons, poursuivit-elle. Si j'étais un être vivant, et que je devisse ainsi devant moi, malheureux, misérable, agitant des idées de suicide, n'aurais-je pas su te les enlever en un clin d'œil? J'aurais eu des larmes pour toi, et des prières qui t'auraient bouleversé, et j'aurais songé à sauver ton âme. Mais je suis morte. As-tu entendu parler de la jolie Margarita Celsing que j'étais jadis? Dis-le-moi, Gustav Berling. Sais-tu comment était Margarita Celsing? Elle était fine, et délicate, et timide. Et innocente, Gustav Berling. Elle était de celles dont les anges arrosent de larmes le tombeau. Elle ignorait le mal. Personne ne lui avait jamais fait de peine. Elle-même était bonne envers tous. Et belle, Costa Berling. Il y avait un homme du nom d'Altringer. Dieu sait pour quelle raison il va traverser ce pays d'Elfalen, où les parents de Margaretha Sessling avaient leur forge. Margaretha le vit. Quel bel homme c'était. Elle le vit et l'aima. Mais il était pauvre. Et les deux jeunes gens convinrent de s'attendre pendant 5 ans, comme dit la chanson. Au bout de 3 ans, un autre prétendant se présenta. Il était laid et méchant. Mais les parents le crurent riche. Et ils firent usage de persuasion, de menaces, pour forcer leur fille à l'épouser. Vois-tu, ce jour-là, Margaretha Sessling mourut. Tu connais sans doute la suite de l'histoire. Nous habitions Sioux, ici au bord du Loven, le commandant et moi. Il n'était pas riche, comme on le disait, au loin de là. Et je connus de mauvais jours. Mais Altringer revint. Il avait fait fortune. Il acheta Ekby, qui avoisine Sioux. Il acheta aussi 6 autres forges au bord du Loven. C'était un homme capable, actif, un homme hors de pair. Il adoucit notre pauvreté. Nous montions dans ses voitures, nous recevions de lui du gibier pour notre table, du vin pour notre cave. Il remplit ma vie de fêtes et de plaisirs. Le commandant partit pour la guerre. Que nous importait son départ? Un jour j'étais à Ekby, le lendemain Altringer venait à Sio. Les rives du Loven retentissaient du brouhaha des fêtes. De mauvais bruits coururent sur Altringer et moi. Si Margaretha Sessling avait vécu, elle en aurait souffert. Mais il laissait indifférente la commandante Sam Selius. Je ne comprenais pas qu'il en était ainsi parce que j'étais morte. Cependant, l'écho en vint aux oreilles de mon père et de ma mère, là-haut, au milieu des meules de charbon des forêts d'Elfalen. Ma mère n'hésita pas longtemps et se mit en route pour venir me parler. Un jour que je vais à ma table, Altringer et plusieurs invités, elle arriva. Je la vis entrer, mais je ne sentis plus que c'était ma mère, Costa Berling. La vieille femme resta 1 jour et 1 nuit pour se reposer, puis elle repartit. Pas un instant, je n'avais senti qu'elle était ma mère. Au moment de partir, Costa Berling, lorsque la voiture était déjà avancée, comme je me tenais à côté d'elle sur le perron, elle se tourna vers moi. Un jour et une nuit, je suis restée sous ton toit, me dit-elle, sans que tu aies consenti à me traiter comme ta mère. Par de mauvais chemins, mal frayés, j'ai fait 50 lieues en 3 jours pour te voir. Mon corps tremble de honte pour toi, comme si j'avais été fouettée de verge. Puisses-tu un jour être renié, répudié, comme tu m'as répudié? Que la grande route soit ta demeure, une botte de paille, ton lit, une meule de charbon, ton foyer. Que la honte et l'opprobre soient ta récompense, et que d'autres te frappent comme je te frappe ici. Et elle me donna un rude coup sur la joue. Je la saisis à bras le corps, je la soulevai, je descendis le perron et je la déposai dans sa voiture.
Ce que la commandante raconte ici, c'est une de ces expériences limites dont le théâtre de Shakespeare est familier. Il y a des moments où tout le poids de la vie personnelle, avec ce qu'il porte en lui de vie et de mort, disparaît. Le cœur humain devient alors le réceptacle d'une aventure beaucoup plus vaste, où l'être est comme le reflet lointain de la volonté presque toujours indéchiffrable de la nature. Alors, il faut aller jusqu'au bout de cette confusion avec la nature, et c'est un peu, je crois, le sens de l'histoire de Don Quichotte. Les événements de la vie personnelle ne sont plus que les masques empruntés par la nature pour faire en nous son chemin.
De quel droit me maudis-tu?
Qui es-tu pour me frapper? Je n'accepte cela de personne au monde. Et je levai la main sur ma mère. La voiture s'ébranla. Et je suis alors que Margaretha Celsing était morte, Costa Berling. Elle était bonne et innocente. Elle ignorait le mal. Elle n'aurait pas frappé sa mère. Le mendiant se releva et se dirigea à pas traînant vers la porte. Cette femme lui rendait dur le chemin vers les grandes forêts. Arrivé sur le seuil, il se retourna et rencontra le regard de la commandante qui était restée immobile. Jamais il n'avait vu pareil changement dans une figure humaine et il s'arrêta, interdit. Ce visage, tout à l'heure dur et menaçant, rayonnait. Et dans ses yeux se lisait une compassion et une tendresse infinies. Le pauvre cœur farouche de Costa Berling fondit à cette flamme. Il leva le bras, laissa aller sa tête contre le montant de la porte et pleura. La commandante jeta au feu sa pipe de terre éteinte et s'approcha de lui. Ses mouvements étaient devenus ceux d'une mère. « Allons, mon enfant !» Elle l'attira et le fit asseoir à côté d'elle sur le banc près de la porte. Il pleurait, la tête sur ses genoux. « Costa Berling, » dit-elle solennellement, « j'ai lutté avec Dieu pour toi. J'ai dit à Dieu, s'il reste encore quelque chose de l'ancienne Margaretha Celsing en moi, permettez qu'elle apparaisse pour empêcher cet homme de se tuer. Et il l'a permis. C'est elle qui te retient. » C'est de ce jour-là qu'à Costa Berling devint un des cavaliers d'Egby.
Après la publication de Costa Berling en 1891, Selma Lagerlöf va connaître immédiatement la gloire. Alors elle pourra désormais abandonner l'enseignement pour se consacrer à la littérature. C'est en 1909 qu'elle recevra le prix Nobel, ce qui va lui permettre de racheter le domaine de Meerbacka. Pour le reste, quelques voyages, particulièrement en Palestine, une part prise au mouvement féministe naissant, puis, en 1914, au mouvement pacifiste, une aide constante aux innocents frappés par la guerre. Au fond, nous avons là une existence de grande solitude acceptée, une existence où la pratique de soi-même est un chemin pour entrer dans la pratique du monde caché. À sa manière, Selma Lagerlöf, quêteuse de lumière, est une errante du souterrain. Et sa quête s'achèvera à Meerbacka le 16 mars 1940, au moment même où la Finlande, pays entre tous aimé, est déchirée par la guerre. Les génies mauvais de la forêt, les elfes noirs et les sorcières hantent l'œuvre de Selma Lagerlöf. Ils sont présents parmi nous comme ils le furent toujours parmi les hommes. Ils ont pris simplement un autre visage auquel le christianisme a donné un autre nom. Ils dessinent autour de nous un paysage de la malédiction et cherchent leur chemin dans les incertitudes de notre cœur. Le besoin d'amour et de consolation des humains est infini, et c'est là la source de notre désarroi. Avec une pitié profonde pour ses frères, Selma Lagerlöf déchiffre ces blessures que la vie, jour après jour, inflige à ce besoin d'amour et de consolation. et les plus obsédants personnages qui peuplent ses romans, ce sont des femmes simplement parce que dans le cœur féminin on déchiffre plus lisiblement les traces du déchirement et parce que, bien plus que les hommes, les femmes vivent dans sa profondeur ultime la force révélatrice de l'amour. La plus attachante peut-être de ces figures féminines, c'est celle de Gertrude que l'on rencontre dans le roman « Jérusalem en Dalécarlie ». Gertrude aime Ingmar Ingmarsson, un paysan dont les affaires n'ont guère prospéré et dont on va vendre le domaine. Finalement, le domaine ne sera point vendu. Mais pour en conserver jouissance, Ingmar Ingmarsson devra prendre pour femme la fille d'un gros fermier. Ici, nous sommes parmi les gens les plus humbles de la terre. Gens démunis, soumis aux caprices des saisons, au hasard des récoltes, au hasard aussi des maladies ou des haines villageoises. Des âmes nues, offertes sans défense à la splendeur et à la cruauté du monde. Comme chez Dostoïevski, qui achève ses derniers romans au moment même où Selma Lagerlöf commence sa carrière d'écrivain, le mot « innocence » est inscrit au centre de cette quête. Et tel est le drame des pauvres. Tant d'innocence rassemblée ouvre la porte du malheur. Je devrais dire à ceux qui n'ont point d'innocence, mais nous n'avons pas dans notre langue de mots pour désigner le contraire de l'innocence. Le mot coupable que nous employons ici ne rend pas compte de la véritable dimension intérieure de cette non-innocence. Et si nous devons prêter tant d'attention à l'œuvre de Selma Lagerlöf, c'est que dans notre propre littérature, ce monde des pauvres a été à peine effleuré, si ce n'est très tardivement, au moment où il est devenu le peuple esclave des cités et de la misère industrielle. Et cette Gertrude, elle n'est point sans faire songer précisément par cette innocence fondamentale à la mouchette de Bernanos. Mais qu'en est-il donc de ce cœur meurtri?
Quelque chose d'étrange s'était glissé dans l'âme de Gertrude. Quelque chose qu'elle ne pouvait ni gouverner, ni maîtriser. Quelque chose qui était en train de la dominer toute. Cela avait commencé du jour où elle avait appris qu'Igmar l'avait abandonnée. Et cela consistait en une peur atroce de le revoir, de le rencontrer sur la route, à l'église ou ailleurs. Ce qu'une telle rencontre aurait de si terrible, elle l'ignorait elle-même, mais elle redoutait une intolérable souffrance. Gertrude aurait voulu s'enfermer jour et nuit pour être bien sûre de ne pas le voir. Hélas, une pauvre fille de sa condition était obligée de travailler au jardin, de faire plusieurs fois par jour l'interminable chemin du pâturage et d'y traire les vaches. On l'envoyait souvent à l'épicerie du bourg acheter du sucre, de la farine, tout ce qu'il faut dans un ménage. Mais la peur ne la quittait point, car il n'y avait pas d'endroit où Igmar ne pût lui apparaître. Et elle songeait amèrement qu'Igmar était trop familier aux hôtes de la maison, que son chien n'aboirait pas, et que ses pigeons qui se promenaient dans les allées ne s'envoleraient pas avec un grand bruit d'ailes. Cette frayeur, loin de diminuer, augmentait de jour en jour. Tout le désespoir de la jeune fille s'était converti en épouvante, et son énergie, sans cesse décroissante, ne lui permettait plus de réagir. Bientôt, se disait-elle, je n'oserai plus sortir de la maison. Mon Dieu, délivre-moi de mes terreurs. Mon père et ma mère me trouvent déjà bizarre. Les autres vont penser que je suis folle. Seigneur Dieu, viens à mon secours.
Thank you.
Ce mal d'amour, on dit ici qu'il ronge le cœur, comme si, à force de s'élargir, la blessure allait s'emparer peu à peu du corps tout entier, le lézarder, comme l'herbe mauvaise lézarde le mur abandonné. Alors, d'étranges circulations s'établissent à l'intérieur de l'être. Le cœur abandonné devient un cœur dépossédé. Mais à cette dépossession répondent bientôt d'autres possessions venues du fond de l'espérance trahie, du fond du temps.
Une nuit, Gertrude fit un rêve étrange. Elle rêva qu'un après-midi, le baquet sous le bras, elle allait traire les vaches dans un pâturage lointain, à l'orée du bois. Elle suivait des trois sentiers le long des champs, si harassée que ses pieds lui semblaient rivés au sol. « Qu'ai-je donc ?» se demanda-t-elle. Et elle se répondait « Tu es lasse parce que tu traînes un lourd chagrin. » Lorsque Gertrude atteignit enfin l'enclos, les vaches n'y étaient plus. La jeune fille les cherchait partout, derrière le fourré de sapin, sous les bouleaux, près du ruisseau, quand elle remarqua une brèche dans la palissade, du côté de la forêt. Alors elle se tordit les mains de désespoir. « Et moi qui suis si fatiguée, me faudra-t-il donc rôder maintenant à travers toute la forêt pour retrouver mes bêtes ?» Et elle s'engagea dans l'épaisseur des branches, se frayant un chemin difficile entre les pins qui la piquaient et les genévriers aigus. Et voici que le sentier devint plat, uni, doux, un peu glissant sous ses pieds à cause de son tapis de feuilles mortes et d'aiguilles brunes. Et les rays du soleil jouaient au pied des arbres, sur le jaune doré des mousses, et son angoisse s'apaisait, tant la haute forêt était belle et bienveillante. Tout à coup, une vieille femme sortit des sapins, Marette, la vieille Laponne, celle qui savait jeter des sorts. « Attends, attends que je te montre quelque chose !» lui cria la sorcière. Et à genoux, au travers du sentier, ses maigres doigts tracèrent dans les aiguilles sèches un cercle où elle posa un bol de cuivre. « Regarde dans le bol, et tu verras. » Gertrude se pencha et tressaillit, car le visage d'Igmar s'y reflétait au fond. Et la vieille lui mit au même instant une longue aiguille entre les doigts. « Prends, et perce-lui les yeux. Fais-le. Fais-le, puisqu'il t'a abandonné. » Gertrude hésitait un peu, mais elle éprouva une âpre et merveilleuse envie d'obéir. « Pourquoi serait-il heureux et riche ?» reprit la vieille. « Pendant que toi, tu es pauvre et tourmenté. » Pique-le bien à la prunelle, là. Gertrude plongea l'aiguille vivement, par deux fois, et sans rencontrer le fond du bol. L'aiguille s'enfonça dans quelque chose de mou et en ressortit toute rouge. Son émotion fut si violente que la jeune fille se réveilla. Elle éclata en sanglots, éperdue. « Dieu me garde, oh Dieu me garde de vouloir me venger de lui !» gémissait-elle. À peine se fut-elle rendormie que le même rêve lui revint. La pauvre fille se retrouva sur le sentier du pâturage et se remit en quête de ses vaches dans la grande forêt. Elle craignait de revoir la vieille Laponne, mais la terre s'entr'ouvrit entre deux grosses touffes d'herbe et une tête en sortit. Une tête qui surmontait un tout petit corps. Et Gertrude reconnut Peter, le fou,
qui s'en allait toujours grommelant et qui habitait une hutte de terre dans la forêt, qu'on avait plusieurs fois soupçonné d'avoir mis le feu à des fermes pour le compte d'autrui. Elle l'aborda et lui demanda en plaisantant s'il ne voulait pas incendier Igmar's Gard, parce que Igmar avait préféré ses vieilles fermes à son amour. Et voici qu'à son grand effroi, le fou la prit au mot et descendit en courant vers la plaine. Gertrude se précipitait à ses trousses, mais les branches des sapins la retenaient. Ses pieds s'enfonçaient dans les bourbiers ou glissaient sur les pierres. Et quand elle parvenait à la lisière du bois, déjà des lueurs d'incendie brillaient entre les arbres. L'abominable horreur de son rêve la réveilla une seconde fois. Elle s'assit sur son lit, les joues ruisselantes de larmes. Et la peur de rêver encore la tint immobile jusqu'au matin.
Ce champ d'images contradictoires, la jeune fille cherchait en vain à retrouver sa propre image. Son âme est nue, face à un monde surchargé de vêtements, mais surtout de masques. Et c'est là peut-être que l'innocence connaît son privilège, car l'innocence humaine est le reflet de l'innocence naturelle. Nous le soupçonnons un peu aujourd'hui encore dans ce que nous nommons le langage des fleurs, et les vagabonds le savaient jadis comme les saints qui s'en allaient sur les sentiers déserts, là où la nature est certes pleine de périls, mais où nul mal ne peut venir des humains. Encore faut-il qu'il subsiste dans un coin de l'âme un lieu où le ciel et la terre puissent trouver abri. Entre ses rêves et la réalité du jour, Gertrude ne sait plus si elle appartient à la lumière ou à l'ombre, au cauchemar ou au désir d'être. Et le drame dont elle est le territoire, c'est bien celui du jour et de la nuit.
Toute la matinée, Gertrude eut la sensation qu'elle continuait de rêver. Son cauchemar avait été si fort et si vivace que la jeune fille ne pouvait se ressaisir. Et le souvenir de la joie mauvaise avec laquelle elle avait enfoncé l'aiguille dans les yeux d'Igmar la hantait et la torturait. L'après-midi, elle prit son baquet et s'en alla traire les vaches, comme d'habitude, le fichu sur les yeux et les yeux baissés. Elle suivait les mêmes petits sentiers que dans son rêve et elle reconnut les fleurs qui les bordaient. Son étrange demi-sommeil ne distinguait plus le songe de la réalité. Arrivée au pâturage, elle n'y trouva point ses vaches. Elle les chercha près du ruisseau, sous les bouleaux et derrière le fourré de sapin. Un instant, l'inquiétude la tira de sa torpeur. Gertrude résolut de monter jusqu'au chalet. Elle se hâta sur le chemin rocailleux et grimpant. Au sommet d'une rude côte, le sentier tourna brusquement et se déroula devant elle, tapissé d'aiguilles et tout uni. C'était bien le sentier de son rêve. La vue de ces mêmes arbres, au pied desquels les mêmes rayons de soleil se jouaient sur les mêmes jaunes de mousse, replongea la jeune fille dans une espèce de somnambulisme. Ses yeux vagues erraient sous les sapins, étonnés de n'y point voir surgir un de ces êtres mystérieux qui habitent la profondeur des bois. Rien ne lui apparut, mais d'étranges pensées s'élevaient au fond de son âme. Si je me vengeais d'Igmar, peut-être échapperais-je à la frayeur. Et peut-être éviterai-je la folie? Ne serait-il point doux de faire souffrir à Egmar ce que je souffre? Qui sait? Le joli sentier entre les sapins se plongeait indéfiniment. Gertrude y marchait depuis plus d'une heure, quand elle aboutit à une clairière couverte de fleurs et d'herbes fraîches. Gertrude reconnut l'endroit. Le ruisseau s'appelait l'eau noire. Et l'on racontait à son sujet des choses extraordinaires. Des gens avaient eu, en le traversant, des visions surnaturelles. Un garçon y avait vu un cortège nuptial qui, à ce moment, se rendait à l'église du bourg. Un charbonnier y avait vu un roi, la couronne sur la tête et le sceptre à la main, qui s'en allait à son couronnement. La jeune fille se sentit le cœur dans la gorge. « Mon Dieu, que vais-je y voir? Mon Dieu, aide-moi !» Elle fut tentée de rebrousser chemin. « Mais non. Il faut que je passe le ruisseau, gémit-elle. Il faut que je le passe pour ramener les vaches. Seigneur Dieu, ne permets pas que j'y voie quelque chose de mal. Ne m'induis pas en tentation. » Elle ne pouvait se décider à poser le pied sur les pierres plates qui coupaient le fil de l'eau. Quand elle s'y hasarda enfin et qu'elle fut au milieu, elle aperçut de l'autre côté non pas un cortège nuptial ni un roi couronné, mais un homme solitaire qui sortait du bois et s'avançait lentement sur le pré fleuri. Il était jeune, de haute taille, des cheveux bouclés encadraient l'ovale de son visage et retombaient sur ses épaules. Une longue robe noire lui descendait jusqu'aux pieds. Un flot de lumière jaillissait de ses yeux. Quand ses regards rencontrèrent ceux de Gertrude, la jeune fille comprit qu'il savait tout et l'avait en grande pitié, parce qu'elle se tourmentait pour de petites choses terrestres et que son âme était malade du souci de vengeance. À mesure que l'inconnu approchait d'elle, tout son être était comme inondé de paix sereine et de soleil. Et quand il eut passé, son amère douleur s'était évanouie.
Plus tard, Gertrude prendra la route de Jérusalem afin qu'en elle, grâce à l'eau du paradis, s'efface de son cœur l'image d'Ingmar Ingmarsson. Et peut-être l'image du Sauveur n'est-elle en définitive que Gertrude elle-même, une petite jeune fille abandonnée de la campagne suédoise qui, comme le Christ, peut prendre en charge au-delà de son malheur le malheur même du monde. Comme si Selma Lagerlöf nous murmurait que notre propre rédemption ouvre fatalement sur la rédemption universelle. Là encore, le thème dostoïevskien du rachat apparaît avec une étrange intensité. Un thème que l'on retrouverait sans doute sous une apparence presque identique dans les figurations bibliques de Rembrandt. Je pense en particulier à la Bethsabée du Louvre. Rembrandt lui aussi savait ce qu'il en était de l'innocence. Et il y a des moments où le rachat est comme absolu, tant le cœur humain parvient dans sa tendresse extrême à se perdre dans le cœur de la nature, une nature souvent glorifiée ici par les animaux, en particulier par les oiseaux. Ces oiseaux rédempteurs, on les trouve au centre du plus célèbre livre de Selma Lagerlöf, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Et on les retrouve dans presque chaque récit comme autant de signes faits par l'absolu à la soif inaltérable du cœur. En fait, beaucoup des expériences fondamentales de l'enfance, ces expériences qui vont constituer le socle de nos aventures de l'âge d'homme, beaucoup de ces expériences se trouvent définies par notre relation avec les éléments. Dans notre civilisation d'aujourd'hui, où notre rapport avec la nature est lointain, ces éléments peuvent sembler secondaires. Apparemment, un enfant d'aujourd'hui n'a que faire de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Mais ce n'est là qu'apparence. D'abord, ces éléments interviennent toujours au niveau de notre propre corps, puisque chacun, où qu'il se trouve, porte en lui différemment, selon ses besoins profonds, sa part d'air, de terre, de feu et d'eau. Les manifestations les plus extrêmes de l'art contemporain, dans la peinture comme dans la musique ou la danse, peuvent être déchiffrées comme l'expression changeante de ces quatre éléments. Mais ces éléments interviennent aussi de manière dominante dans le spectacle que nous offre le monde, spectacle qui va former notre sensibilité, donner à notre psychisme ses fondements essentiels. C'est pourquoi tous les personnages de Selma Lagerlöf sont vêtus de vent, de neige, de flamme, de glaise. Ces éléments, ce sont eux qui constituent la Terre dans son éternité, qui font le lien entre les générations éphémères, joignant le peuple des vivants à l'immense peuple des morts. Chacun d'entre nous est une parcelle de vie brassée par le temps. Mais, nous dit Selma Lagerlöf, cette parcelle est précieuse, parce qu'elle appartient au vaste mouvement de la création, parce qu'elle fait partie de l'immense théâtre dont tous ceux qui furent et tous ceux qui seront, plus tard, sont les spectateurs. Dans une grande part de la littérature du Nord, chez Per Lagerquist, chez Sigrid Undset, chez August Strindberg, mais surtout chez Selma Lagerlöf, on retrouve cette identique et poignante interrogation. Qui sont-ils, ces disparus, dont nous sommes les enfants? Ces disparus dont les regards sont fixés sur nous, sans que nous sachions de quoi ce regard est messager. On sent combien ici est capitale l'obsession qui est au cœur du christianisme, mais qui était déjà vivante avant lui, parmi les tribus humaines. Y a-t-il de l'autre côté du monde les damnés et les élus, ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont condamnés à l'ombre et à la souffrance? Dans la rêverie de Selma Lagerlöf, et je dis rêverie parce qu'il ne s'agit jamais d'une interprétation cohérente ni d'un système rationnel, mais plutôt d'une illumination vivante, dans cette rêverie imaginative, la lumière et l'ombre des élus et des damnés n'est que le reflet de notre lumière et de notre ombre. Nous, qui disons de nous que nous sommes des vivants, nous sommes en fait tout empris dans le peuple des disparus. Et Selma Lagerlöf détruit les barrières qui nous séparent de l'en-deçà et de l'au-delà. La rédemption des morts n'est que l'image de notre propre rédemption.
Une vieille femme gravissait à pas trottinant un sentier de montagne. Elle était petite et mince, son visage pâli, fané, mais ni ridé ni dur. Elle portait une longue mante et un bonnet tuyauté. À la main, elle tenait un livre de prière et un brin de lavande dans son mouchoir. Là-haut, sur le fiel où les arbres cessent de croître, sa cabane s'élevait juste au bord du large glacier dont les ondes de glace descendaient du sommet neigeux vers la vallée profonde. La vieille femme y logeait seule. Tous les êtres qui lui avaient appartenu étaient morts. C'était un dimanche, elle revenait de l'église, mais quelle qu'en fût la raison, elle ne se sentait nullement réconfortée et s'en allait mélancolique. Le prêtre avait parlé de la mort des damnés, et ses paroles l'avaient fortement saisie. Soudain, elle se rappela ce qu'elle avait entendu dire dans son enfance, que beaucoup de damnés enduraient leur supplice sur l'éternelle glace de la montagne, au-dessus de l'endroit où elle demeurait. Il lui revint à l'esprit d'innombrables histoires de ces habitants du glacier, de ces ombres infatigables que chassait et torturait le vent glacial des fiels. Alors, elle éprouva pour la première fois l'horreur de la montagne. « Je suis comme une trépassée, dit-elle. Personne ne s'inquiète de moi. Je ferais aussi bien de me mettre à mourir. Le froid de la solitude m'a tout engourdi. J'ai le cœur gelé. » « Ah, mon Dieu, continua-t-elle, s'il y avait seulement une âme qui eût besoin de moi, alors la vieille Agnetta retrouverait un peu de chaleur. Mais je ne puis tricoter des bas pour les bouquetins, ni faire des lits pour les marmottes. Mon Dieu, je t'affirme, et elle tendit le poing vers le ciel, qu'il faut que tu me donnes quelqu'un qui ait besoin de moi. Sinon, je me laisserai mourir. »
Ce vide de l'existence dont témoigne Agnetta, c'est l'absence de lien entre notre passion et la passion du monde. L'homme est une passion inutile, nous dit le philosophe, mais qui sait ? La prière que les créatures adressent consciemment ou inconsciemment au ciel n'exprime qu'une évidence. Donner au cours mouvant de nos saisons et de nos jours un sens. Telle est la parole de la vieille. Le poing levé vers le ciel, et qui de nous ne l'a levé un jour, n'est point révolte, mais désir éperdu d'être relié quelque part au battement silencieux du cœur universel, et c'est là qu'il appartient à chacun de découvrir le lien invisible qui est lien avec l'invisible.
À ce moment, un moine, grave et de haute taille, s'avança sur le sentier. Il la vit si affligée qu'il marcha près d'elle et Agnetta lui confia sa détresse. Elle lui dit que son cœur était en train de geler et qu'elle serait un jour, comme les malheureux des glaces éternelles, si Dieu ne lui donnait aucune raison de vivre. « Dieu pourra t'en donner une, dit le moine. » « Ne vois-tu pas que Dieu est impuissant ici, répliqua la vieille Agnetta. Ici, il n'y a que le désert, froid et nu. » « Ah, dit-il, c'est là que tu demeures ? Alors tu n'es pas seule. Tu as une nombreuse compagnie. Regarde. » Le moine joignit le pouce et l'index. Il les leva devant l'œil gauche de la vieille Agnetta et la pria de regarder la montagne. Mais la vieille femme frissonna et ferma les yeux. « S'il y a quelque chose à voir, je ne veux pas le voir, s'écria-t-elle. Dieu m'en garde, c'est assez lugubre là-haut sans cela. » « Alors, adieu, dit le moine. Il n'est pas probable qu'on t'offre une seconde fois de contempler ce spectacle. » La vieille femme, devenue curieuse, rouvrit l'œil et regarda du côté des champs de glace. D'abord, elle ne distingua rien. Puis, il lui sembla que quelque chose se mouvait là-haut. Oui, du blanc se mouvait sur du blanc. Ce qu'elle avait pris pour du brouillard, des vapeurs, des chatoiements blancs et bleus de glace, c'était des masses de damnés qui souffraient leur supplice dans le froid éternel. La pauvre petite vieille trembla longtemps, comme une feuille. Les anciens avaient donc dit vrai, les morts enduraient là-haut des tourments et des angoisses infinies. La plupart étaient enveloppés de quelque chose de long et de blanc. Mais ils avaient tous les pieds nus et la tête découverte. Ils paraissaient innombrables. Les uns après les autres, il en venait toujours. Quelques-uns marchaient, fiers et droits. D'autres approchaient comme en flottant. On eût dit qu'ils dansaient sur la glace. Mais elle vit qu'ils se coupaient et s'ensanglantaient les pieds à tous les glaçons et à toutes les crêtes. C'était ainsi que dans les contes. Ils se rejoignaient, se blottissaient les uns contre les autres pour chercher de la chaleur, et aussitôt ils reculaient, se séparaient, effrayés du froid mortel qui s'exhalait de leur corps. La laine glaciale du fiel paraissait sortir d'eux, comme s'ils eussent empêché la neige de fondre et donné au brouillard sa morsure cuisante. Plus elle les regardait, plus la vieille Agnetta redevenait calme. La terreur l'avait quittée, mais la tristesse et la pitié montaient du fond de son cœur pour tous ces misérables. Tout à coup, le moine laissa retomber sa main et la vieille Agnetta n'aperçut plus que d'immenses champs de neige déserts. Ça et là, quelques blocs de glace se dressaient, mais qui n'emprisonnaient aucun revenant. L'éclat bleuâtre du glacier n'émanait point de corps gelés, de légers flocons, et non des âmes damnées, tourbillonnaient au souffle du vent. Cependant, elle était persuadée d'avoir bien vu, et elle demanda au moine « Est-il permis de faire quelque chose pour ces malheureux ?» Il répondit « Quand Dieu a-t-il défendu à l'amour de faire du bien et à la miséricorde de consoler ?» Puis il s'éloigna, et la vieille Agnetta se hâta de regagner sa cabane.
Mais la cabane elle-même a changé. Elle n'est plus seulement peuplée de l'ordinaire, du quotidien. Elle s'est remplie de toute la rumeur de la montagne, de toutes ces ombres lumineuses ou noires que le moine a évoquées. Et toute cette montagne, toutes ces ombres, Agnetta en fait son bien. Elle les prend en charge dans l'innocence de son vieil âge.
Là, elle se mit à réfléchir. Tout le soir, elle se creusa la tête pour savoir comment elle secourrait les damnés qui erraient sur la glace. Elle n'eut pas le temps de songer à sa solitude. Le lendemain matin, elle redescendit vers les habitations. Elle souriait et marchait d'un pas allègre. La vieillesse ne lui pesait plus si lourdement. Les morts, se dit-elle, ne se soucient pas qu'on ait les joues roses et les pieds légers. Ils ne demandent qu'un peu de chaleur. Mais les jeunes gens ne pensent point à ces choses-là, ou non. Et comment les trépassés se protégeraient-ils contre le froid infini de la mort si le cœur des vieilles gens ne leur venait en aide? Arrivée à la boutique du village, elle y acheta de gros paquets de chandelles. Chez un paysan, elle commanda une charrette de bois si grande que pour la payer, elle dut prendre à filer deux fois plus de lin que d'habitude. Le soir, rentrée dans sa cabane, elle récita beaucoup de prières et essaya de garder son courage en chantant des psaumes. Mais d'instant en instant, son cœur faiblissait. Néanmoins, elle fit ce qu'elle s'était promis de faire. La vieille Agnetta dressa son lit dans la petite pièce du fond. Dans la pièce d'entrée, elle rassembla des bûches dans son âtre et les alluma. À sa fenêtre, elle plaça deux chandelles, puis elle ouvrit toute grande la porte de sa maison et alla se coucher. Étendue sur son lit, elle prêtait l'oreille dans l'ombre. Certainement, on marchait. Des pas approchaient, glissaient le long du glacier. C'était quelque chose de traînant et de gémissant. Cela faisait furtivement le tour de la maison et n'osait pas entrer, et s'arrêtait à l'angle du mur et grelottait. La vieille Agnetta n'y tint pas. Elle s'élança hors de son lit, traversa vite la grande pièce, saisit la porte et la ferma. C'était trop. C'était trop, c'était plus que la chair et le sang n'en peuvent souffrir. Tu es lâche. Lâche, vieil imbécile, se dit-elle, le feu se consume, les chandelles coûteuses brûlent, et tout sera vain à cause de ta lâcheté. Et de nouveau, elle écouta. Sa seule peur était maintenant qu'ils ne revinssent plus. L'idée qu'elle les avait trop effrayés pour qu'ils revinssent lui tenaillait le cœur. Alors, elle se mit à appeler dans les ténèbres, comme au jour de sa jeunesse quand elle gardait les troupeaux. Mes petits agneaux blancs, mes agneaux des montagnes, venez, venez. Des crevasses et des pics, venez, mes petits agneaux blancs. Ce fut comme si le vent dur des fiels s'engouffrait dans la cabane. Ni pas ni soupir, elle n'entendit plus que des coups de bise qui bruissaient à l'angle de sa demeure et qui sifflaient dans sa chambre. Une voix inquiète s'y mêlait et semblait répéter sans cesse « Chut, chut, n'effrayez pas. » Elle eut la sensation que la pièce était bondée d'êtres qui se pressaient contre les murs à les faire éclater et qui, à certains moments, auraient voulu soulever le toit pour avoir plus de place. Et toujours ce chuchotement persistait. Chut, chut, n'effrayez pas, n'effrayez pas. La vieille Agnetta se sentit alors heureuse et calme. Elle joignit les mains et s'endormit. Le matin, il lui parut qu'elle avait rêvé. Rien dans la chambre n'avait changé. Le feu s'était éteint et des chandelles consumées, il ne restait pas même une goutte de suif au chandelier. Tant que vécut la vieille Agnetta, elle continua ainsi de s'occuper des morts. Elle filait et peinait afin de pouvoir toutes les nuits entretenir le feu de son âtre. Et elle était heureuse puisqu'on avait besoin d'elle et qu'elle le savait. Vint un dimanche où on ne la vit point à sa place dans l'église. Des paysans montèrent à sa cabane pour s'enquérir de ce qui lui était arrivé. Elle était déjà morte. Et ils rapportèrent son corps. Le dimanche suivant, on fit l'enterrement de la vieille Agnetta. Peu de gens y assistaient et aucune trace de chagrin ne se marquait sur les visages. Mais au moment où les premières pelletées de terre allaient tomber sur le cercueil, un moine grave et de haute taille franchit l'enclos du cimetière. Il montra de la main la cime neigeuse du fiel et ceux qui se trouvaient autour de la fosse virent alors la montagne se teinter de rose et comme s'illuminer de joie. Et ils virent passer une procession de petites flammes jaunes, pareilles à des chandelles brûlantes. Et ces petites flammes étaient aussi nombreuses que les chandelles que la morte avait offertes aux damnés. Et le peuple s'écria « Loué soit Dieu ! Elle qui n'est regrettée de personne ici-bas a su trouver des amis là-haut, dans la grande solitude. »
Comme Agnetta, nous vivons entourés de fantômes, mais ces fantômes ne sont point là pour nourrir nos cauchemars. Ils voyagent sur le chariot du temps, dispersant aux quatre vents les images qui vont habiter nos mémoires. Et c'est grâce à cette mémoire, celle où se mêlent nos vies anciennes, nos vies à venir et l'éphémère de notre existence présente, que se tisse jour après jour la trame de notre âme. Texture difficile, comme nous l'enseigne un poème de William Butler Yeats. Si je possédais les voiles brodées du ciel, ouvrées de lumière d'or et d'argent, les voiles bleues, les voiles floues, les voiles sombres de la nuit et du jour ou du demi-jour, je déroulerai ces voiles sous tes pas. Mais je suis pauvre, hélas, et je n'ai que mes rêves. J'ai déroulé mes rêves sous tes pas. Marche avec douceur, car tu marches sur mes rêves.
Une vie, une œuvre, Selma Lagerlöf, par Claude Métra et Michel Abgral. Texte lu par Isabelle Attali, Laurence Jeanneret, Florence Bouteiller, André Almuro. Prise de son et mixage, Daniel Bizien.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 février 1986. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.